Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La sanctification des grandes vacances pourrait être le titre des deux méditations. Mais pour la première, même si je vais poursuivre un petit peu l'introduction, je vous livre déjà ce qui va être la toile de fond des deux méditations également. L'esprit de pénitence pendant les vacances. Et vous conviendrez que le choix du thème semble assez judicieux compte tenu de l'époque, parce que dans quelques jours, semaines, nous allons tous prendre quelques vacances. Cela dit, parler de sacrifice lorsqu'on évoque les vacances, ça fait peut-être un petit peu drôle, étonnant, pas évident. On va essayer de justifier ce titre à l'aide des deux méditations. Mais prenons un petit peu d'élan pour l'introduction que nous faisons habituellement de l'ensemble de la récollection. Eh bien, un aspect central du message que Dieu a confié à Saint José Maria, c'est d'insister, et nous le faisons souvent, sur le travail. En nous référant au plan de Dieu sur le monde. Et très souvent, nous faisons appel aux origines. Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin de l'Éden, d'Éden, ut operare tur, pour qu'il cultive le jardin, pour qu'il le garde, il travaille. Et c'est la raison principale pour laquelle le travail et donc toutes les activités humaines peuvent être sanctifiées. On a été placé sur terre pour ça, pour travailler, pour œuvrer, pour agir. Mais pour être complet, nous devons évoquer aussi le fameux septième jour, dans le récit de la création. Et dans l'anthropomorphisme que nous connaissons, très parlant, le livre de l'Exode dit « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout un ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos, sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car, en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Par conséquent, fidèle à la parole de Dieu, si nous négligions notre repos, nous ne serions pas fidèles à la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'un des objectifs de cette récollection consiste à rappeler les aspects relatifs à cette obligation importante dans le but de bien profiter comme il faut de cette période qui est à la fois particulière et utile. Donc, 2 sujets prévus pour cette soirée. Le premier, un aspect donc de l'esprit chrétien, du repos. Nous allons souligner la pénitence. Et c'est un angle d'attaque lorsqu'on parle de vacances qui n'est pas usuel, qui n'est pas très fréquent, avouons-le. Surtout pour parler du repos. Et nous disons, nous allons parler de pénitence, de sacrifice, de mortification, et comment ? Et nous allons voir comment c'est un aspect du repos qui est assez fondamental et à ne jamais oublier ni négliger. Je reviens dans 1 minute sur cette méditation. La seconde, tout à l'heure, nous allons parler des vacances en famille, parce que je suppose qu'une grosse partie, la majeure partie de tes vacances, tu les passeras en famille. Et nous allons souligner que votre famille, pendant les vacances aussi, doit être un foyer de lumière et de joie. En soulignant que le repos n'est jamais purement personnel, mais en famille, notamment. On ne peut pas faire abstraction des autres pour bien se reposer. Allez, cette méditation, repos, sa nature, moyen de sanctification. Je vous rappelle un passage de l'évangile de Saint Marc au chapitre 6. Il leur dit, c'est un passage qui est toujours très touchant, lorsqu'on voit la sollicitude du Christ à l'égard de ses apôtres concernant le repos. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. En réalité, notre Seigneur n'a pas innové, mais il n'a fait que suivre la révélation, comme pour tout le reste d'ailleurs. Et c'est très intéressant de voir la même fermeté chez Jésus pour nous inviter à la lutte que pour prendre quelques repos. Mais comme autant de circonstances ordinaires que les hommes sont appelés à sanctifier. Tout est à sanctifier. Toute activité doit être sanctifiée. Toute. Et le moment est sans doute bon pour y réfléchir, parce que nous rêvons un petit peu de ces vacances. Certainement, j'imagine. Parce qu'on est fatigué pour des tas de raisons. Mais je crois qu'un raisonnement qui est assez logique, nous allons nous y arrêter en trois petits points très rapides, en 3 minutes. Premier point, en commentant ce passage de Saint Marc, le Seigneur pousse ses disciples à prendre un peu de repos. Et il ne fait que se faire l'écho d'un aspect de la création qu'on a commencé en citant pour notre méditation. Le 7e jour, le repos. Le Christ n'est que l'écho en le menant plus loin et plus haut comme toujours. Donc le repos est autrement dit un élément de base de la vie humaine qui est constitué, qu'on bâtit sur cette alternance travail-repos. Et donc il faut l'admettre, il faut de l'humilité pour admettre cette alternance aussi. Il y a des gens qui ne savent pas se reposer, il y a des gens qui considèrent que le repos est une perte de temps, etc. Et qui ne savent pas bien se reposer en plus. Donc premier élément, il faut prendre un peu de repos, il faut alterner avec le travail. Deuxième élément, c'est Saint Paul qui ajoute dans une de ses épîtres, la première aux Corinthiens, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Deuxième éclairage extraordinaire. Tout orienté à la gloire de Dieu. C'est-à-dire tout orienté au but final que Dieu a fixé pour notre vie, sa gloire. Et nous, que ce soit le travail, nous devons l'orienter vers Dieu. Que ce soit le repos, il doit être orienté surtout vers Dieu, pour la gloire de Dieu. Et la raison profonde, en fait, nous la connaissons. On ne peut pas le développer, mais tout vient de Dieu. Et donc tout peut nous conduire à Dieu. Tout doit nous conduire vers Dieu, en retour. Revenir vers Dieu. Troisième élément, qui est une conclusion, il existe une manière chrétienne de se reposer. Parce que se reposer ne signifie pas faire n'importe quoi. Surtout pas oublier l'essentiel. Le repos est aussi un temps de sanctification, avons-nous dit, et c'est une occasion de monter vers Dieu. Et seulement dans cette orientation, le repos sera un vrai repos, comme nous allons essayer de le développer par la suite un petit peu plus. Donc, une chose que vous entendez de temps en temps dans nos récollections, bien sûr, et que vous avez comprise, c'est que nous n'avons pas le droit de créer une rupture entre notre foi et notre vie quotidienne. Quelle qu'en soit l'activité, on n'a pas le droit de couper. Et je pense qu'il n'est pas inutile de le rappeler, parce que nous pourrions nous laisser gagner par des idées dominantes, pour qui se reposer, c'est vraiment s'éclater, changer complètement, abandonner tout ce qui est habituel pour faire des choses originales, épatantes, en oubliant même que nous sommes chrétiens. et en ayant donc un comportement qui ne correspondrait pas à notre foi. Et en fin de compte, ouvrir une sorte de parenthèse dans notre effort personnel de sanctification. Les vacances ne sont pas une parenthèse dans la sanctification. Gravez ça dans votre tête, mes chers amis. Une parenthèse, soit parce que nous ne savons pas mettre à profit, comme il faudrait, cette belle période. Et ça serait un manque de progrès dans le bon sens, dans la sanctification. Soit parce que nous nous laissons aller à certains comportements assez répandus ou à des choix qui sont peu chrétiens. Et ça serait une parenthèse fatale. Vous rappelez le sermon sur la montagne? Vous êtes le sel, vous êtes la lumière, et cette vocation qui est la nôtre, à être sel et lumière, ne s'interrompt pas, il n'y a pas de parenthèse, parce que nous déménageons à quelques kilomètres vers le haut, vers le bas, vers l'est, parce que nous prenons, parce que le chrétien montre l'exemple, sans vouloir être exemplaire, mais le chrétien témoigne, le chrétien, en tout et à tout moment, il est chrétien. Cela fait partie de notre mission dans le monde, à titre de disciple du Seigneur. Et donc, nous disons aujourd'hui que le temps libre, le temps de vacances, eh bien, nous devons, eh bien, montrer à tous, aux personnes qui nous côtoient, eh bien, que nous faisons des choses utiles, bonnes, pendant les temps des vacances aussi. Nous avons rappelé déjà que dès la création, Dieu a prévu à la fois le travail et le repos de l'homme. Et cela est devenu encore plus clair après le péché originel, en raison de ce caractère pénible du travail. Ces jours-ci, à cause de la température, peut-être que nous faisons l'expérience un petit peu plus. C'est pénible, ça peut être très dur de travailler dans certaines conditions. Par conséquent, nous avons tous besoin, si quelqu'un disait que maintenant il n'est pas fatigué, début juillet, eh bien c'est quelqu'un qui est vraiment d'étonnant, de surprenant. Nous avons besoin de nous arrêter, car le travail comporte toujours cette usure, cette fatigue, et c'est légitime de vouloir se reposer. Lorsqu'on parle de fatigue, si vous me permettez une petite parenthèse, qui n'en est pas une, mais pour distinguer un petit peu, et y voir un peu plus clair. Je crois qu'on peut facilement, aisément être d'accord tous pour dire, il y a trois types de fatigue. Il y a une fatigue physique, une fatigue psychologique, une fatigue spirituelle. Physique, parce qu'il fait chaud, je dors moins, parce qu'habituellement je dors pas beaucoup, j'ai un déficit de sommeil presque chronique, parce que la vie est agitée, et moi je me fatigue, parce que les déplacements en avion, en train, en métro, en bus, en grève, en bouchon, c'est physiquement, c'est éprouvant, donc on est usé physiquement. Deuxièmement, psychologiquement, mais il y a un effort intellectuel, il y a une dépense, une usure nerveuse aussi, une tension. La tension dans beaucoup de nos professions, la tension nerveuse est un élément important. Le stress, les soucis, et ça, on charge. Et psychologiquement, parfois, on est limite. On est fatigué psychologiquement. Troisième domaine, spirituellement, mais oui, le poids de nos fautes, le poids de notre infidélité parfois, certains éloignements par rapport à Dieu, ça use, ça fatigue. Peut-être la tiédeur. Je n'arrive pas à prendre au sérieux ma vie spirituelle. Je suis dans un état de tiédeur qui fatigue aussi, spirituellement. Parce que je me rends compte que Dieu veut autre chose de moi. Et moi, je donne pas ce que Dieu attend de moi. Et ça fatigue. Bien. Physique, psychologique, spirituel. Eh bien, le repos est prévu pour éliminer ces trois types de fatigue. Parce que ces trois types sont intimement imbriqués les uns aux autres. Et c'est pourquoi parfois on dit, ouais, je vais faire une sieste, je vais dormir un peu plus, ça suffit. Non, il ne suffit pas de bien dormir. Non, il ne suffit pas de faire du sport. Parfois, on risque l'infarctus parce qu'on se démène en faisant beaucoup de sport alors qu'on n'est pas entraîné. Non, il ne suffit pas de récupérer physiquement. Il y a des gens qui disent, allez, j'ai besoin de physiquement. Eh bien non, c'est pas ça. Mais en même temps, on peut dire, il ne suffit pas non plus de charger sur un autre domaine, de dire, ouais, je change d'idée et je m'abandonne à mes loisirs préférés. Là, psychologiquement, je suis détendu, je suis, et dit, Eh bien, c'est le moment, je pense, d'aborder ce que je voulais aborder dans la méditation. C'est là que, certainement, assez paradoxalement, la pénitence, la mortification, le sacrifice chrétien entrent en jeu. Dans toute sa splendeur, d'ailleurs, cette pénitence, qui est une voie vers le bonheur. La pénitence est la seule voie vraie pour, vers le bonheur. Tu te rappelles le langage paradoxal du Christ qui parle de ce lien bonheur-sacrifice, notamment dans les béatitudes, et peut-être encore plus, d'une façon plus frappante, dans la deuxième des béatitudes, probablement l'une des plus mystérieuses, et justement à creuser lorsque c'est plus mystérieux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et dans la consolation, il y a ce repos profond. Parce qu'on est consolé, parce qu'on a des chagrins, des peines, des soucis. Qu'est-ce qu'on est bien, n'est-ce pas? J'avoue avec vous que nous avons un peu du mal à comprendre le lien si direct entre la joie et les larmes. Et pourtant, notre Seigneur a été formel. Comme pour toutes les autres affirmations aussi, hein, il est formel. Mais ne veut-il pas, notre Seigneur, nous aider à comprendre un des mystères de notre vie sur terre? Le mystère de la souffrance, le mystère de la douleur, le mystère de l'effort, de la lutte en général, qui entraîne souvent des larmes. Ou peut-être on peut dire autrement, le Seigneur ne cherche-t-il pas à nous donner le moyen ou les moyens d'aborder ce mystère? Les moyens de garder la paix, la sérénité, les moyens pour être heureux, malgré les difficultés, malgré l'effort qu'il faut fournir. C'est donc un enseignement qui nous intéresse au plus haut point, parce que nous sommes très directement concernés. Parce que nous le voulions ou non, la vie est là. Et notre vie, avec son lot d'amertume, est là. Et son lot de douleurs et de peines physiques, morales, spirituelles, des peines de déception. On encaisse pas mal sur terre. D'où notre angle d'attaque, la pénitence comme voie vers le bonheur, notre bonheur personnel que le Dieu créateur veut positivement et directement, notre bonheur et le bonheur des autres, auxquels nous devons contribuer à titre d'artisan de paix. Moi, la paix, je sais très bien quand je l'obtiens profondément. La paix avec les autres, dans la deuxième méditation, vous allez voir, on va être très concret dans des applications très précises de cette importance pour avoir la paix et pour donner la paix. Et on va voir qu'il y a tout un ensemble de circonstances, de situations qui n'apportent pas la paix. Et pendant cette période estivale, à l'occasion des grandes vacances, eh bien, nous voulons obtenir le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix. Et donc, nous ne voulons pas compromettre le bonheur, ni personnel, ni familial. C'est important, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous voulez pas le compromettre? Disons-le une fois de plus, par-delà les difficultés et par-delà les problèmes, eh bien, on dit déjà un mot qui va revenir jusqu'à la fin de la récollection. Eh bien, ce qui nous empoisonne l'existence, ce qui nous enlève la paix, ce qui nous enlève la joie et le bonheur, ce sont nos péchés, c'est notre égoïsme. Là, on appelle les choses par leur nom. Seul le péché, quel qu'il soit, est un mal, et un mal absolu. Seul le péché. Et à vrai dire, lui seul peut créer des divisions. De la même manière, seule la vertu de pénitence, dont le sommet est la confession sacramentelle, la vertu de pénitence, la réparation, la compensation bonne de ce qu'on a fait le mal, seule la pénitence peut effacer le péché et les traces que le péché laisse dans notre âme. Parce qu'avant de se manifester par des œuvres extérieures, la pénitence est toute intérieure. Je vous lis le point 1431 du catéchisme de l'Église catholique. On commence à cerner le problème de près. La pénitence intérieure est une réorientation radicale, de toute la vie, un retour, une conversion vers Dieu de tout notre cœur, une cessation du péché, une aversion du mal, avec une répugnance envers les mauvaises actions que nous avons commises. En même temps, elle, la pénitence, comporte le désir et la résolution de changer de vie avec l'espérance de la miséricorde divine et la confiance en l'aide de sa grâce. Catéchisme 1431, à retenir, à relire, pour avancer dans la toute dernière partie de la méditation, afin d'être pratique dans ces quelques minutes qui nous restent. Autour de deux points, nos résolutions. Premier point, la piété personnelle et la dévotion. Si vous voulez passer des vacances heureuses, belles, qui portent tous les fruits dont vous rêvez, soignez d'abord la piété personnelle et la dévotion. Il faut toujours commencer par nos relations avec Dieu, parce que elle est notre première affaire. Et si les affaires de notre âme ne sont pas en règle, rien ne va plus. C'est une expérience universelle. La première chose qu'il faut mettre en place, c'est ma vie intérieure, mon âme. Parce que sinon, nous aurons beau chercher la cause du malaise ressenti, et nous ne trouverons rien. Parce que nous aurons fait un mauvais diagnostic. Et lorsqu'on fait un mauvais diagnostic, logiquement, le traitement envisagé n'est pas adapté. C'est clair. Nous l'avons déjà dit, la cause en amont n'est pas la fatigue. Lorsque ça ne va pas, la cause en amont, ce ne sont pas les problèmes. La cause, c'est mon infidélité. Ma tendance innée à l'égoïsme, c'est-à-dire au repli sur moi-même. Là, ça me démange, je ne vais pas bien, je ne suis pas bien avec les autres, parce que je suis déjà pas bien avec moi-même. C'est pourquoi, sans exclure d'autres moyens indispensables, on a parlé physique, psychologique, spirituel, mais nous, tout commence par notre vie spirituelle, par notre rapport personnel à Dieu. Et nous devons nourrir notre vie spirituelle pendant l'été, piété personnelle et dévotion. Si vous ne faites pas des moments de prière, les vacances ne porteront pas des fruits escomptés. Une prière à l'aide de l'évangile, d'un livre, marquez un petit temps de prière tous les jours. Faites des lectures instructives pour nourrir votre foi. Profitez-en si vous avez un peu plus de temps. Récitez quelques prières vocales que vous n'avez peut-être pas le temps toujours de faire pendant le travail, les déplacements compliqués. Un peu de chapelet, par exemple, en famille, avec votre épouse, ou tout seul. Essayez d'aller quelques fois à la messe en semaine. Je vous donne des tuyaux nécessaires pour que vous alliez très bien pendant vos vacances. Et là, sans oublier ce que nous avons dit, qui doit être un petit peu présent dans tous les plats, l'esprit de pénitence, Et sa manifestation importante, cet esprit de mortification. Vous ne pouvez pas manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, vous coucher à point d'heure, vous lever à point d'heure, sans un peu d'organisation, d'ordre. Ça va être l'appareil sinon à la maison, et vous serez les premiers à scandaliser, épouse, enfant, et tout va partir à volo, mais en rien du tout, en 3 jours, tout ce que vous avez à essayer d'emmagasiner comme vie intérieure peut partir. Et prévoyez un petit peu un peu de disponibilité à l'égard des enfants et un peu de tenue. Ne vous baladez pas maillot maillot de bain partout dans la maison, je sais pas quoi, pieds nus partout dans la maison. Enfin, je sais pas, même si ambiance plage, pas partout quoi. Enfin, je ne sais pas. Je veux pas voir la vidéo parce que on pleurait peut-être ensemble. Hein. Je serais pas fier. C'est comme ça que tu éduques tes enfants. Et les gens, allez, on va déjeuner torse nu, je sais pas quoi. Enfin, pour dire, mais ça, si ça vient pas de ta piété personnelle, si ça vient pas de l'intérieur, tu n'affineras, mais pas du tout. Le deuxième point, la famille et les amis, c'est un autre objectif important pour le repos équilibré, harmonieux. C'est un moyen de retrouver le bien-être. Là, les occupations habituelles pendant l'année ne permettent pas de trouver cet équilibre. Mais là, parce que vous avez peu de temps, parce que vous n'êtes pas souvent ensemble avec le conjoint, avec les enfants, et là, pendant les vacances, là, on peut cultiver cet esprit de famille, et, n'est-ce pas, un peu plus, beaucoup plus, profiter de ces semaines. J'allais dire, mari et femme, j'allais dire, le couple, du temps pour être ensemble, pour dialoguer, du temps pour faire le point sur la famille, sur les enfants, pour nourrir un projet commun pour l'année prochaine. Prenez le temps. Occupez-vous à fond de l'autre pour le rendre vraiment heureux en vous dépensant l'esprit de sacrifice et de pénitence. Pensez plus à l'autre qu'à vous-même. Les enfants, pour devenir les meilleurs amis possibles de vos enfants, profitez-en de ce temps des vacances. Et l'amitié sans connaissance mutuelle n'est pas possible. Donc, passez du temps avec vos enfants, dialoguez avec eux, faites du sport avec, faites une excursion, une visite culturelle, faites des choses un petit peu intéressantes, adaptées à leur âge, mais donnez des conseils à propos, au moment opportun. Soyez pas rabat-joie, soyez pas le sergent là, hein, le père fouetteur. Demandez au Seigneur de bien vous y prendre. Et on pourrait dire autant de l'amitié, parce que c'est le moment pour renouer des contacts, d'approfondir l'amitié avec vos amis, élargir le cercle de ses amis. Bien. Conclusion. Programmez. Réfléchissez. Établissez des orientations pour les vacances. Il n'est pas trop tard pour certaines choses. Pour la période surtout que vous passez en famille, où vous avez les enfants, il ne faut pas la rater celle-ci, parce qu'il y a des camps, il y a des séjours, il y a des le papa qui travaille, qui va, qui vient. Mais lorsque vous êtes ensemble, ça, il faut en parler avec votre épouse pour très bien organiser ça, très bien. Faute de quoi ? Eh bien, vous serez pris de court, le temps passe très vite, et la rentrée va arriver sans crier gare. Et peut-être une année de plus, vous dire, nous avons raté cette période exceptionnelle, si importante. Puisse la Vierge Marie, elle qui a sanctifié la vie ordinaire, nous éclairer, oui, nous aider à faire les meilleurs choix, nous aider à faire un plan, et ensuite à nous y tenir. Parce que là, il faut de la force d'âme, esprit de pénitence et de sacrifice, pour s'y tenir, pour aider votre épouse à s'y tenir avec vous. Et dans ce plan, n'est-ce pas ? Oui, la place de choix qu'occupera l'esprit de pénitence. Cet esprit de pénitence qui vous apportera en permanence la paix et la joie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.